C'est un plaisir d'être là ce matin pour moi. Ce n'est pas une formule, c'est de tout mon cœur. Parce qu'il m'arrive simplement de penser derrière le lac. Vous savez que nous autres, on est aussi français un peu par la colonisation. Mais... Donc j'aime beaucoup la France et j'aime les Français. Mais de l'autre côté du lac, il y a Tonon qui est gravé maintenant dans mon cœur. Ce matin, je vous propose d'aller à l'essentiel dans... deux passages bibliques que nous allons lire, peut-être pas entièrement, Luc chapitre 4 pour commencer. Je lirai du verset 14 au verset 19, mais mon propos prend en compte les versets 14 jusqu'au verset 30. Luc chapitre 4, verset 14 à 19 pour la lecture, et puis pour la méditation, j'irai jusqu'au verset 30. Et puis Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 12, uniquement le verset 17. Et si vous y êtes, grâce aussi au progrès de la technique, nous commençons la lecture. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé, où il avait grandi, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Là, j'arrête ma lecture. Et Jacques, au chapitre 12, le verset 17, nous dit « Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières. » On a beaucoup parlé de lumière ce matin et ça nous a tous fait du bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Tout don parfait, tout cadeau de valeur nous vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Amen. Prions. Ce matin, Seigneur, je te répète ma prière. Merci de nous parler personnellement, toi qui nous enseignes à te demander notre pain quotidien. Merci par ton esprit de nous visiter en cet instant. Amen. Je ne vais pas déroger à l'usage des vœux. Ainsi, c'est vrai que j'ai pensé à vous sans être là, comme je vous l'ai dit, mais puisque j'ai l'occasion aujourd'hui de vive voix, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2017. Pour ma part, 2016 n'a pas été ce que je prévoyais, tranquille. Mais au fil des années, j'ai appris une chose. J'ai appris que pour le croyant, pour tout être humain, hein, en sorte, il y a des jours faciles et des jours moins faciles. Il y a des temps de disette et des temps d'abondance. Ce matin, nous allons examiner ce que nous avons lu et essayer d'en retenir quelque chose pour une bonne année 2017. Du reste, vous avez déjà entendu que le Seigneur Jésus lui-même est venu proclamer une année de faveur qu'il accorde. Et cette année de faveur, cette année bonne, je vous la souhaite de la part du Seigneur Jésus, qui dit qu'il est avec nous tous les jours, facile comme difficile, jusqu'à la fin. Ce récit de Luc chapitre 4 vient après deux temps marquants de la vie du Christ. Ceux qui sont habitués savent qu'au début du chapitre 4, il y a la tentation du désert. Jésus est amené dans le désert où pendant 40 jours et 40 nuits, il a prié, il s'est recueilli, il s'est mis en face de Dieu. Il a aussi été tenté et il est sorti victorieux de la tentation. Et puis, dans ces temps difficiles, il a pu faire l'expérience de compter sur la parole de Dieu, une parole qui est liée à sa communion avec le Père. Puis le deuxième événement, c'est lorsque, après le désert, Luc nous dit qu'il est rempli de la présence de l'Esprit de Dieu et il est allé partout prêcher la bonne nouvelle, avec relativement beaucoup de succès. C'est des temps forts. Il y a deux temps, le temps de l'épreuve, le temps du désert, et puis ce temps où la renommée de Jésus croissait, où tous reconnaissaient en lui un prophète venu de Dieu. Il proclamait en parole et en acte le royaume de Dieu. Jésus, dans le désert, va apprendre à compter sur Dieu au travers de sa parole. Il prend ce temps pour vraiment entrer dans sa mission, pour se préparer à cette mission, pour démarrer son ministère. Et ce temps de prière, ce temps où il s'offre à Dieu, lui permet de recevoir la plénitude de Dieu, de recevoir les ressources de Dieu nécessaires pour sa mission. C'est ensuite qu'il retourne en Galilée. Galilée, le texte biblique nous dit, c'est là où il est né, enfin non, pas là où il est né à Bethléem, mais là où il a grandi, là où on l'a vu, et là apparemment il a maintenant plus de 30 ans, puisque en temps il s'est fait baptiser dans le Jourdain, et il est parti donc commencer son ministère. Jésus retourne en Galilée, plein de puissance de l'Esprit. J'ai dit tout à l'heure que sa mission s'affirme, sa mission se confirme. Retour donc de Jésus chez lui à Nazareth. Et puis, le récit nous apprend qu'en même temps, Jésus ne se faisait pas d'illusions. Parce qu'il dit qu'aucun prophète n'est bien reçu chez lui. Jésus donc affronte les situations d'une manière sereine et étonnante. J'ai dit qu'à la première réaction, on voit la foule qui, devant ce que Jésus vient de dire, qui est essentiel, à savoir le Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis un messager de Dieu, chargé d'annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, aux opprimés la liberté. » Jésus donc, avec ce message, se présente d'une manière sereine et suscite la réaction d'admiration de l'ensemble au verset 22. Et au verset 28, on voit qu'il y a une deuxième réaction. Tous dans la synagogue furent remplis de colère et puis ils se sont mis à vouloir lyncher le Christ. Ils se sont mis à vraiment être en colère contre Jésus suite à ce qu'il a dit. Et cette double réaction, moi j'en tire le fait que Jésus peut affronter les situations, quelles qu'elles soient, parce que dans son être intérieur, il s'est préparé et il sait qui il est, il sait ce qu'il a à faire. Et la première application ce matin, que c'est que pour une bonne année 2017, c'est pas d'abord le faire dont il s'agit, c'est de l'être du croyant qui sait s'appuyer sur le Seigneur. J'ai dit que pendant ces 40 jours, 40 nuits, Jésus a pris du temps pour se préparer à sa mission. Examinons Maintenant, quelques raisons de la sérénité de Jésus. La première raison pour moi, c'est que sa relation au Père est vraiment une relation de dépendance entière. Déjà, au début donc, du chapitre, dans le désert, il ne se fie pas aux paroles du diable qui cherche à le tenter, à le déstabiliser. Il est en communion avec le Père et il désire honorer le Père. Et Jésus peut ainsi user d'une liberté dans l'usage de qui il est, de ce qu'il a fait, parce qu'il est accroché à une identité, Dieu son Père. Du reste, ça a été dit, et nous l'avons vu aussi dans la vidéo, Jésus est venu pour nous relier au Père, pour nous mettre en relation. Et il dira, nul ne vient au Père que par moi. Pour une bonne année, il faut être serein, il faut recevoir donc cette sérénité de Jésus, mais elle passe d'abord par une relation bien établie avec Dieu le Père. Et la bonne nouvelle, vous la connaissez, c'est que c'est lui qui a fait le chemin vers nous. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Nous n'en étions pas capables, mais il est venu jusqu'à nous. La deuxième raison de la sérénité de Jésus, c'est qu'il s'est construit cette force intérieure de se soumettre à Dieu et à Dieu seul. Il ne se soumet pas aux circonstances, que les circonstances soient faciles, qu'elles soient difficiles. Jésus ne dépend pas de la météo, j'allais dire. Il dépend de son être intérieur qui est bien recentré sur Dieu son Père. Et il est soumis. Et face à la croix, plus tard, Jésus dira qu'il dispose de ressources pour éviter son chemin. Il dira à Pierre, l'impulsif, qui veut régler les choses par la force de ses poignets, j'ai la possibilité d'avoir même des anges pour combattre pour moi, pour que je ne passe pas par cette épreuve. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Et cette sérénité aussi, c'est la nôtre. Elle peut être un but de notre vie, une volonté de nous soumettre à Dieu et à sa volonté en toutes circonstances, faciles comme difficiles. Paul dira, je sais en qui j'ai cru. C'est vrai que nous sommes, je ne prétends pas personnellement être sur un chemin de victoire constante, mais à l'intérieur de nous-mêmes, il faut savoir qui est notre Dieu et savoir qu'il ne change pas comme nous avons vu dans le texte de Jacques. Il n'y a pas en lui d'ombre de variation. Son amour ne diminue pas. Son amour pour nous est un amour pour toujours. Et il veille sur sa parole, il veille sur sa volonté pour l'accomplir. La troisième raison de la sérénité de Jésus, c'est qu'il est ouvert à la plénitude de Dieu. Il est ouvert à l'Esprit Saint qui vient habiter en lui et gouverner ses sens. Plus tard, Paul va dire dans Romains chapitre 8, que ceux et celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont authentiquement fils de Dieu. Être chrétien, c'est laisser la place à Dieu dans notre cœur pour qu'il vienne par son Esprit y habiter et gouverner nos sens pour nous conduire dans une vie conforme à sa volonté. Celui qui place ou celle qui place en Dieu sa confiance ne chancelle pas, dit le psaume. Il voit et reçoit le secours de Dieu, la force de Dieu. Et Jésus lui-même, plus tard, va dire à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus, devant le temple de Jérusalem, va s'écrier, « Si quelqu'un a soif, Si quelqu'un veut vivre une vie sereine, une vie épanouie, une vie stable, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça veut dire que Dieu est ouvert à nous donner son esprit pour nous remplir de sa présence. Et le fait que l'esprit a oint Jésus fait que Jésus est capable, en toutes circonstances, de faire la volonté du Père. Ça, c'est dans l'être de Jésus. Mais pourquoi Jésus peut ainsi se comporter? Quelles sont les ressources de Jésus-Christ dans son agir ici, là où il se trouve? Tout à l'heure, je ferai les applications. Mais la problématique ici, c'est qu'il retourne là où on l'a vu grandir, là où on le connaît par cœur. On le connaît par ses forces, par ses faiblesses. On sait qui il est, on connaît sa famille. Du reste, le plaidoyer va être, n'est-ce pas, le fils de Joseph que nous avons vu ici grandir. Et face à la réalité simple de notre vie, face à l'ordinaire, face à nos défis, nous pouvons avoir un comportement qui est un comportement de victoire, un comportement de vie, si nous savons discerner les ressources du Christ pour nous les approprier. La première ressource dans l'agir de Jésus, c'est qu'il est très simple. Il retourne chez lui et il attend. Et le jour donc du sabbat, nous dit le texte au verset 16, il entre dans la synagogue comme d'habitude. On lui remet le rouleau du prophète Ésaïe. Et à ce stade, bien souvent, nos attentes sont tellement élevées que nous passons à côté de ce que Dieu voudrait de nous. Ici, le Christ agit dans la simplicité des événements, des jours et des circonstances. Et le Christ discerne dans l'ordinaire, dans le train-train, dans ce qu'il a à faire de basique, d'ordinaire, le Christ discerne quelle est la volonté de Dieu pour lui. Le défi d'une bonne année, c'est la même chose. Il y aura des jours tout à fait ordinaires. La plupart des jours, c'est l'ordinaire. Il faut se lever le matin, il faut s'occuper des gosses, il faut les amener à l'école, il faut aller au travail, il faut faire le repas, il faut rencontrer celui-ci. Nos obligations se passent dans l'ordinaire. Calvin a parlé de la grâce commune de Dieu qui fait pleuvoir sur les méchants et les bons. Jésus retourne à l'endroit où peut-être on ne l'attendait pas. Il retourne dans l'endroit où il est connu, où sa vie est exposée. Et là, il saisit ce que on conçoit, la providence divine. Et c'est dans la providence que ce jour-là, on lui remet à lui le rouleau d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il m'a oint pour que j'apporte une bonne nouvelle à tous ceux qui en ont besoin. Et l'œuvre de Luc met en avant le salut, ce salut que Jésus est venu apporter, qui est rendu possible dans l'ordinaire. Et j'aimerais vous dire que pour 2017, Dieu nous attend dans notre ordinaire, dans le train-train des événements. Et ici, la deuxième ressource de Jésus, c'est le discernement et la sagesse. Jésus sait discerner dans l'ordinaire les gestes, les paroles à dire. Et nous aussi, apprenons dans l'ordinaire à ne pas simplement provoquer les événements, mais nous saisir, dit le texte biblique, en toutes circonstances, des occasions pour défendre notre foi. Quand on remet donc le rouleau d'Ésaïe, Jésus lit ce texte et tous ont les yeux fixés sur lui, nous dit le texte. Et à ce moment, Jésus dit, maintenant est ici même ces paroles d'Ésaïe, vieux de près de 5 à 7 siècles, Ses paroles sont accomplies. Et on le regarde avec étonnement. On est frappé par son enseignement. N'est-ce pas le fils de Joseph? Mais il y a un moment de transition, il y a un moment prophétique qui s'accomplit où Jésus se présente comme le Messie. Jésus donc vient être témoin de la parole, de la promesse de Dieu. Et pour nous aussi, nous allons aborder 2017 avec cette même fonction. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous au moment même, dans la situation même? Nous pouvons compter sur Dieu qui a des projets de paix, qui nous connaît par notre nom, qui sait de quoi nous sommes faits, mais qui nous a choisis, non pas en vertu de nos capacités, non pas en vertu de ce que nous sommes à mesure de faire ou de ne pas faire. Dieu nous a aimés, il nous aime, et il nous envoie dans le monde pour être témoin de ce qu'il a fait et de ce qu'il voudrait faire. Jésus a des ressources dans le discernement de ce qu'il a à faire dans le monde. Parlant de la lumière ce matin, Jésus dira, vous êtes aussi à votre tour maintenant la lumière du monde. Et pour 2017, nous sommes appelés à éclairer autour de nous. Nous sommes appelés à témoigner. Et Dieu nous y aidera. Dieu nous rendra capables. Et la troisième ressource, comme nous l'avons vu, c'est apprendre donc à compter sur l'Esprit de Dieu, pas sur nos capacités, ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit le Seigneur. J'ai dressé devant vous que ce texte, ce moment de la vie de Jésus est un moment charnière. C'est un moment de transition. Il se fait connaître et reconnaître comme celui qui est envoyé du Père pour accomplir une œuvre importante dans sa génération, dans son lieu de vie, dans son quotidien. Il est le messager de Dieu. Et pour cela, Jésus a pris d'abord le temps de communier avec son Père dans le désert. Il a pris l'habitude de cultiver une intimité. Il connaît qui est Dieu. Et quand le diable vient faire des propositions au nom de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, Jésus est parfaitement au clair que cela n'est que tromperie. Pour proclamer une année spéciale, une année de faveur divine. C'est l'année où je vous souhaite un shalom, une paix profonde en toutes circonstances, avec pour appui ce texte de Jacques, que tout cadeau, que tout don parfait nous vient en haut du Père des Lumières. Nous ne nous dépendons pas des circonstances positives ou négatives. Nous ne nous dépendons pas de bon vouloir. Et moi, j'ai actuellement un peu plus peur parce que quand on écoute l'actualité, quand on écoute même certains analystes bibliques, certaines façons de voir la fin du monde, on nous annonce la catastrophe, on ne sait plus à quel sens se vouer. Le repère orthonormé, c'est nous dépendons de Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu peux être en paix, je peux être en paix, je peux être assuré. Non pas que je sois Madame Soleil, je ne peux pas vous garantir une année tranquille. Je ne saurais pas vous garantir une année sans difficulté, mais je peux vous garantir une année où, selon la volonté de Dieu, vous pouvez compter sur les ressources de Dieu pour traverser en vainqueur chaque jour de votre vie. En se souhaitant une bonne année, on ne sait pas ce que l'année nous réserve. Mais appuyons-nous sur la sagesse de Jésus. Le texte de Jacques 12, 17 que j'ai lu est encadré par « Si quelqu'un manque de la sagesse ». La sagesse, c'est ce qui nous est donné pour avoir un bon comportement au moment opportun dans toute situation. Et Jacques dit que si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un ne sait pas quoi faire, comme bien souvent moi, il peut demander à Dieu sa sagesse, et la sagesse d'en haut est pure. Cultivons notre jardin dans l'écoute et la soumission à Dieu. Comptons sur sa grâce à l'image de Jésus-Christ et nous verrons des choses se dérouler. Vivons confiants que Dieu maîtrise les événements de nos vies. Et la Bible nous dit que nous sommes invités à nous approcher de lui, pierre vivante, à dépendre de lui constamment et non pas de nous-mêmes, de nos émotions, de nos sentiments, de nos savoirs, de nos pouvoirs. Nous dépendons ultimement de Dieu. Et la troisième dimension, c'est que nous soyons capables de rester attachés et actifs dans la communauté humaine là où Dieu nous place. Communauté humaine parce que Jésus va d'abord dans là où il a grandi, il va dans chez lui, avec les voisins, on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui se passe, hein. La Bible ne nous dit pas tout, mais là aussi, certainement que le Christ a un rôle à jouer dans la cohabitation avec ceux qui sont autour de lui. Donc nous sommes invités en 2007 à ne pas nous retirer du monde, à ne pas nous isoler ou fuir une certaine réalité sous prétexte qu'elle soit difficile ou ingérable. Et je pense à ce péché premier que nous avons, c'est de fuir nos responsabilités. On supprime les problèmes, on préfère zapper les choses au lieu de les résoudre. Dieu nous invite à compter sur sa grâce, pas sur nous-mêmes, pour aussi mener une vie saine autour de nous, avec ceux qui nous côtoient et qui nous voient vivre. Restons aussi attachés et actifs dans la communion spirituelle de notre assemblée. Moi, j'aime bien les églises baptistes. Le fondement du baptisme, c'est aussi la congrégation. Nous sommes tous frères et sœurs. Quelles que soient nos capacités, il y a de l'égalité, il y a la place pour chacun. Nous sommes invités à l'image de Jésus d'avoir, notre grain de sel dans l'ordinaire de chaque jour. Voilà, d'être une saveur, d'être... Oui, une lumière, d'apporter notre facette des choses. C'est ensemble que nous sommes appelés à bâtir la communauté. Là aussi, nous sommes invités à être actifs en nous laissant guider par Dieu en toutes circonstances. Le texte biblique de ce matin exprès, je n'ai pas fondé mon message sur ce qui apparaît central, la mission du Christ, mais j'ai beaucoup parlé des circonstances, du cadre, pour vous dire deux choses que j'aimerais que vous reteniez. La première chose, ça se passe d'abord dans notre être. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. La vérité de mon impact, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon église, c'est d'abord qui je suis. Et nous sommes invités à nous occuper de notre jardin intérieur. Et cela au moyen de la prière et de la parole de Dieu. Pour cela, Jésus passe du temps d'abord à communier avec le Père. Et lorsqu'il affronte les situations, nous le voyons dégager des ressources, une sérénité, une tranquillité. Il sait quel est le cœur de l'homme. Il sait que les hommes sont méchants. Dans un premier temps, ils applaudissent, ils sont en train de lui crier victoire. Et puis, à l'espace de 3 versets, ils sont tous furieux et ils cherchent à l'assassiner. Mais Jésus, qui est notre modèle, nous donne des ressources pour vivre une année 2017 dans la tranquillité. La deuxième dimension, c'est ce que je vous ai expliqué. Jésus sait qu'il faut être attaché au Père qu'il faut être au clair avec soi-même et sa mission, et ça lui donne de traverser en vainqueur les épreuves faciles ou difficiles. J'ai beaucoup aimé ce chant que nous avons chanté tantôt. Et je voudrais inviter les musiciens à revenir. Le dernier chant brille. Cette invitation à laisser l'Esprit de Dieu nous habiter, nous transformer, cultiver une communion, une relation avec Dieu et ne pas fuir notre réalité, qu'elle soit facile ou difficile. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. C'est le dernier. Oui, oui, brûle. J'ai parlé aussi des ressources liées à la présence de l'Esprit. Et pendant ce temps, je voudrais vous inviter simplement à vous tourner vers Dieu.